nationale.
Bonjour à tous. Dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine, est-il utile de vous parler de la disparition de Johnny Hallyday? Non, vous savez déjà tout. On va parler de Noël, de la lecture et d'Emmanuel Macron. Macron, pas si mal finalement, il remonte dans les sondages. Encore deux baromètres cette semaine qui ont fait rebondir le chef de l'État. Il gagnait 4 points la semaine dernière dans le baromètre Figaro Magazine à 42%. Cette semaine, plus 3% chez YouGov, plus 6 points selon le baromètre Paris Match à 52% d'opinion favorable. Il faut dire que flanqué de ministres réactifs qui font preuve d'autorité. Par exemple, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui, après le blocage à Gare Montparnasse il y a une semaine, convoque le numéro 2 et exige une nouvelle organisation dans la semaine. On voit aussi Emmanuel Macron habile sur les sujets sensibles. Dans sa tournée en Afrique, par exemple, plus question sur la colonisation de parler de repentance, mais de réconciliation des mémoires. Et puis Emmanuel Macron, successful sur les premières réformes chaudes, code du travail, impôts sur la fortune, CSG. En tout cas, elles sont passées presque sans faute, donc pour l'instant, Emmanuel Macron, mal élu, mais finalement peut-être approuvé par les Français selon les courbes des sondages. Autre sujet cette semaine, lecture. La France, dernière de la classe. Les petits Français lisent de plus en plus mal. La France recule et arrive en 34e position du classement international Pearls réalisé tous les 5 ans. C'est la Russie, dirigée par Poutine, qui est en tête. La France est la dernière de la classe qui se situe au-dessus de la moyenne internationale de 500 points. Ils sont 34 pays. La France semble 4e avec 511 points. Et alors le même jour, coïncidence de calendrier, le ministre de l'Éducation nationale annonçait que la dictée quotidienne doit devenir une réalité à l'école élémentaire parce que grammaire et vocabulaire sont les deux piliers de l'orthographe. Et puis, coïncidence encore, quelques heures avant la publication de ce classement, on apprenait la mort de Jean d'Ormesson, à la fois plus jeune et plus vieil académicien français. Peut-être a-t-il voulu mourir avant d'avoir su, d'avoir constaté que la France régressait en lecture. Et l'on remet sur le tapis, sur la table, la question des crèches dans les espaces publics. Laurent Wauquiez, président de région Auvergne-Rhône-Alpes, a contourné l'interdiction faite par la justice d'installer une crèche de Noël dans le hall du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas de problème, dit-il. On va faire une grande exposition de 100 ans pour valoriser les savoir-faire artisanaux de sa région. Et ça passe. Noël, c'est aussi les jouets. Avec ces deux jouets espions, la CNIL accuse deux jouets connectés d'atteinte grave à la vie privée des familles. Le robot IQ et la poupée Kayla. La société collecte une multitude d'informations personnelles sur les enfants et leur entourage, car les enfants peuvent parler à ces jouets. Le contenu des conversations échangées avec les jouets peut être centralisé et conservé par la société qui les fabrique. Enfin, cette période de Noël où la solidarité s'exprime, notez que les Français ont moins donné aux associations en 2016 par rapport à l'année précédente. C'est une première depuis des années. Pour la première fois, le montant global des dons a stagné et le nombre de dons a reculé de 4%. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Alors ce matin, de la neige est prévue par Météo France et cet après-midi avec de la pluie, il faut composer avec aussi des températures assez fraîches, 5 degrés cet après-midi. Et tout de suite, voici votre émission Tribune Sport présentée par Philippe Carnus.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnus.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 10 décembre, il fait froid, alors on va vous réconforter à travers naturellement l'actualité sportive, hein. C'était Tribune Foot la semaine dernière, c'est Tribune Sport ce matin, spécial rugby et tennis avec un énorme spécialiste Christian Rieux. Christian, bonjour, comment ça va d'abord?
Oui, bonjour, fraîchement, ouais. Bon.
Alors, je l'ai dit, on va parler ballon ovale dans la première partie de cette émission, hein. Que se passe-t-il pour le rugby français qui ne gagne plus ses matchs, notamment dans la tournée d'automne. Et puis, on reviendra également dans la deuxième partie sur la victoire de l'équipe de France de Coupe Davis pour le tennis. Christian, simplement, l'actu cette année, cette semaine a été quand même très chargée, hein, avec les décès de Jean d'Ormesson et puis Johnny Hallyday. Alors, bon, on va pas revenir sur les immenses talents de ce chanteur qui a eu un bel hommage hier dans les rues de Paris et de cet immense écrivain et journaliste qui était Jean d'Ormesson. C'était deux passionnés de sport. Un était passionné par le ski, Jean d'Ormesson. L'autre était passionné donc par les sports mécaniques et la boxe. Le monde du sport voulait simplement s'associer donc à leur départ.
Voilà, oui, deux grandes figures qui sont parties. Bon, mais il faut poursuivre, puisque leur souhait c'était de mélanger et la vie et la mort. Souvent, ils ont pris des risques énormes. Oui. Bon, on n'y reviendra pas, mais bon, c'était deux grandes figures.
Voilà, de notre pays et le monde du sport devait naturellement s'y associer. Alors, Christian, que se passe-t-il dans le rugby français? On l'a dit, on l'a répété, hein, le rugby français se cherche, hein, depuis la Coupe du Monde 2011, où cette équipe de France avait été battue de justesse par la Nouvelle-Zélande, du temps de Marc Lièvremont. Depuis, l'équipe de France se cherche. On a perdu tous nos matchs cet été contre l'Afrique du Sud dans la tournée de fin de saison. Et puis, pas une victoire cette année en tournée d'automne, hein, puisque l'équipe de France a été battue par la Nouvelle-Zélande 38 à 18. Battue aussi dans le deuxième match contre les Blacks de 5 petits points. Et puis, battue d'un tout petit point par l'Afrique du Sud. Mais l'équipe de France s'en sort bien. Et puis, tenue en échec à Nanterre 23-23 contre une très bonne équipe du Japon qui, si elle avait eu un buteur, l'aurait emporté. Que se passe-t-il pour le 15 de France, Christian?
Voilà, alors, le problème est très compliqué. Il ne s'agit pas de prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Il faut essayer de comprendre. À l'évidence, la maison rugby file un mauvais coton, et les derniers résultats, comme tu viens de le dire, malheureusement, ne font que renforcer les idées de chaos, de désordre, de rabaissement. Alors, donner des explications, souvent arbitraires, refaire le match ou les matchs, puisqu'il y en a eu plusieurs, faire porter sur les épaules de Noves et de son staff tous les maux de la terre, ne serait qu'un leurre. Ils ont bien sûr leur part de leur responsabilité, mais une solution de facilité ne permettrait pas d'atténuer le mal infini qui est tombé sur notre jeu. Tout le monde est d'accord, la pente est savonneuse, et il faut avant un éventuel chambardement, bien saisir les tenants et aboutissants. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi l'image si rayonnante naguère s'est subitement ternie? Pour quelle raison notre rugby si génial hier a fait place à un jeu insipide, ennuyeux, infructueux? Dans sa descente aux enfers, il ne pourra à coup sûr éviter un désastre tant économique que sociologique, tant pragmatiste que médiatique. Un simple regard jeté sur l'histoire du rugby à 13 est susceptible de nous procurer des vertiges. Il faut savoir que le rugby à 13 était florissant, oui, et descendu au ras des pâquerettes.
Oui, on n'en parle pratiquement plus maintenant.
On n'en parle plus. Alors, tout semble se dégrader depuis 1998. Avec la création de la Ligue nationale de rugby et l'avènement du rugby dit professionnel. Avant, il était tout autant professionnel, mais ça se passait sous la table et dans les arrière-plans. Bon, pour ne pas faire de dessins malveillants. Avant, tout était simple. Les conflits se résumaient à de vulgaires bagarres, bourrades, invectives, sautes d'humeur, arrangements à coups de fourchette. C'était la fourchette à table et dans les yeux aussi, hein. Bon, aujourd'hui, rien de cela. Les enjeux sont énormes, le fric, le fric, le fric. Et les tribulations du rugby amateur et du rugby professionnel conduisent les protagonistes devant les juges. On n'élève plus les problèmes en levant le coude, mais en se soumettant en juridiction, au parquet, l'herbe du pré carré est soudain devenue folle. Ainsi, et en remontant le cours de l'histoire, nul besoin d'être en première ligne pour comprendre la part essentielle prise par notre culture didactique avec la création de la soule. On a été un peu à l'origine du rugby, hein. Par l'avènement d'un patrimoine génétique qui a imprégné des générations de joueurs plus talentueux les uns que les autres. De cette façon, et sans remonter nécessairement à la source, il sera possible de faire référence aux frères Pratt de Lourdes, Bouquet de Vienne, les frères Boniface, Rive, Mazot, Codorniou, plus près de nous, Serge Blanco, du Sautoir et d'autres. Bon, nous avons un héritage conséquent. Avec ces talents est née une forme rugbystique qui a enchanté tous les terrains de France et de Navarre d'un concept pontifiant et remarquable de jeu à la française. Orbi et Torbi aller vivre sa vie sans embâge, un rugby de référence à la sauce du jeu dit à la française. Est-ce qu'il y a eu de la suffisance, une certaine présomption? Toujours est-il, vaille que vaille, génération après génération, le rugby a vécu de sa prodigalité sans trop penser au lendemain. Sans trop tenir compte des évolutions, des pragmatismes, des technicismes, des avancées en matière de préparation physique et mentale, des apports de la médecine du sport. Pour tout dire, l'institution a vécu sur ses lauriers, s'est réfugiée derrière son héritage, en faisant confiance à la bête, on pourrait s'en sortir toujours, par incantation souvent. Et puis, sans doute avec le concours d'un professionnalisme mal maîtrisé, on s'est aperçu que ça ne marchait plus, le jeu à la française, les incantations, les présidents et les sélectionneurs, les joueurs n'étaient plus des référents. Il leur a manqué du physique, de la densité et de la dextérité aussi. La formation et l'école, les techniques et les stratégies ne convenaient plus. On était dépassés par le rugby des autres nations. Bon, ça l'aperçoit aujourd'hui, crûment. On perdait à la fois le sens et l'essence. En conclusion, sans s'en apercevoir, on avait dilapidé l'héritage en ne faisant pas ouverture aux autres, adaptation à l'évolution du jeu, écoute des AK des nations du Sud. Alors, le problème, c'est que nous sommes au fond du trou. Alors, surtout, il ne faut pas poursuivre l'œuvre de démolition. Il est temps de reconstruire, d'améliorer les choses, de s'inspirer des évolutions et de s'entourer des personnes compétentes. Je ne me souviens plus l'auteur, mais certains penseurs ont dit « ce sont les hommes qui font les systèmes et non les systèmes qui font les hommes ». Donc il faut s'entourer de gens compétents, de renforcer les staffs, de cesser les guerres claniques entre la fédération et la ligue de rugby, et puis revoir la formation à la base, la formation du joueur, et reconstruire le jeu tel qu'il devrait être pour pouvoir concurrencer les autres.
Donc ça veut dire qu'on a d'abord, suite à votre édito, Christian, raté le tournant sur le professionnalisme dans le rugby, parce que fin 98, c'est l'arrivée du professionnalisme. Ça veut dire que le rugby français l'a raté?
Oui, je pense que le rugby français l'a raté. Et puis, ce qui a failli, c'est la division entre le rugby amateur et le rugby dit professionnel, et les guerres entre les instances, la Ligue et la Fédération, bon, qui ne sont pas réglées. Quand on pense les difficultés qu'il y a aujourd'hui, et les guerres, on ne peut que s'étonner.
Alors, je l'ai dit, hein, c'est déjà sensible depuis 2011, parce que jusqu'en 2010, l'équipe de France a quand même été parmi les meilleures nations. Hein. Lièvremont décroche un tournoi destination, une victoire dans un tournoi destination en 2010. Il y a une finale de Coupe du Monde sur un parcours chaotique, certes, en 2011. Hein, l'équipe de France arrive en finale, doit gagner cette finale, même si sur l'ensemble de la compétition, elle ne mérite pas de gagner, et puis depuis, plus rien, de temps à autre un match intéressant, mais sans lendemain. On a beaucoup critiqué Saint-André, et puis aujourd'hui c'est Noves, finalement rien n'a changé, et est-ce que Noves n'a pas pris aussi l'équipe un peu trop tard?
Voilà, plusieurs erreurs ont été faites, mais il faut se recentrer sur les fondamentaux. Au rugby, le rugby c'est un combat. Oui. C'est un combat collectif, une équipe contre une autre équipe. Bon, il s'agit de gagner le combat. Et le match commence toujours par les avants. Ce sont les avants qui gagnent le match et les trois quarts, les arrières, qui meublent le score. Voilà, ce sont des grands principes de base.
Ça, de toute façon, c'est l'essence même du rugby. Hein. Ça, ça faut pas l'oublier, quelle que soit l'époque, c'est toujours comme ça.
Voilà, alors donc on a voulu poursuivre dans l'esthétisme du jeu, envoyer la balle à l'aile, essayer de déplacer le ballon, sans s'apercevoir que aujourd'hui il y a d'abord un jeu d'affrontement avant qu'il y ait un jeu de contournement. Donc il faut arriver à mixer les méthodes et essayer de tenir compte de ces évolutions, comme l'ont fait les nations du Sud. Et pour cela, il faut des joueurs qui soient capables de le faire. Il faut qu'ils soient endurants, résistants, forts. Alors, troisième élément, troisième paramètre, et il faut le souligner, et les gens le confondent souvent, hein, la puissance, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est la force multipliée par la vitesse. Mmh. Alors, on a confondu tout. À partir de Saint-André, on a voulu des joueurs extrêmement puissants. On a eu des bulldozers, mmh, des joueurs qui ont fait beaucoup de musculation, mais qui ont perdu la dextérité.
Ouais, comme Antonio, par exemple.
Voilà. Antonio, mmh, est l'exemple. Voilà. Et puis, sont venus les Japonais. Et on s'est aperçu, mince, ils sont plus rapides que nous. Mmh. Donc, on manquait de vitesse. Pourquoi on manque de vitesse? Parce que On fait beaucoup de musculation et on ne travaille pas assez cette qualité-là. Donc il faut trouver un équilibre entre la force multipliée par la vitesse.
Ouais, c'est le principe des blagues actuellement, hein, qui allie vitesse, technique et puis cette puissance physique.
Voilà, et puis c'est tous les sports qui sont touchés par ce phénomène. Hein. Mmh. Il faut être très rapide, hein, on s'en aperçoit au football, hein, les joueurs rapides qui tirent leur épingle du jeu, hein, Neymar, Mbappé, Coman, bon, etc. Et on va aller vers des formes de jeu de plus en plus rapides.
Alors Christian, ça nécessite l'apport d'entraîneurs étrangers, parce qu'on en parle, hein, on dit qu'on pourrait peut-être remplacer Novès et puis avoir même l'apport d'entraîneurs étrangers qui justement ont cette autre vision du rugby.
Voilà, oui, il ne s'agit pas de changer une mauvaise par un autre, parce que ça sera pareil, hein, mm-hmm, bon, un peu de choses près, mais il faut s'entourer de personnes qui ont cette culture du Sud, puisqu'ils sont en avance dans le Sud, cette culture du Sud, et qui pourront nous amener un plus. Au niveau de la formation, au niveau du jeu, bon, et même au niveau de l'arbitrage, hein, mm-hmm, parce qu'on s'aperçoit que l'arbitrage concourt aussi au désagrément.
Oui, ça a toujours été un peu le problème. Il y a beaucoup d'interprétations dans le rugby, et c'est vrai qu'il y a souvent eu un petit décalage entre les arbitres du Nord et puis du Sud, qui n'ont pas forcément la même vision du jeu.
Oui, mais
hein, ils sont plus dans l'esprit, ceux du Sud.
Mais il y a une tolérance dans le top 14 qu'il n'y a pas dans le Sud, ouais, et dans les nations anglo-saxonnes. Hein. Mm-hmm. Donc il faut aussi que l'arbitrage participe à cette évolution. Hein. Mm-hmm. Quand on voit certains joueurs qui font des fautes élémentaires, ça ne pardonne pas au niveau international. Après, mm-hmm, on s'étonne. L'arbitre. Mais l'arbitre a toujours raison.
Et puis Christian, on parle justement du top 14. On dit que c'est le championnat le plus relevé. Il y a beaucoup d'étrangers. Les jeunes n'y ont plus leur place. C'est-à-dire ceux qui sortent des centres de formation ne jouent pratiquement plus les matchs de haut niveau. C'est une des causes aussi, une des raisons.
Mais oui, c'est une raison. Mais le problème, c'est le problème du professionnalisme. Mmh. Bon, de l'argent qui est nécessaire pour avoir de très bons joueurs. Et c'est plus facile d'avoir un Sud-Africain d'un bon niveau qu'un joueur GIF. Bon, les jeunes joueurs tant recherchés. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a une course à l'étranger qui fait que après au poste clé, on est gêné aux entournures. Bon, on a le demi d'ouverture. On a des manques, piliers droits, pareil, bon, etc. Parce qu'on utilise des étrangers.
Et puis, il manque peut-être aussi une gueule, une personnalité dans le monde du rugby. On a eu Blanco, on a eu Rive. Aujourd'hui, il n'y a plus ce leader naturel.
Oui, parce que les leaders, mais là, ouais, ils sont en coulisses. Hein.
Ouais.
Bon, c'est. Alors, Laporte a amené déjà certaines choses. Mais avec la guerre, Laporte-Gauze, on va au clash. Bon, mm-hmm, ce sont les joueurs qui doivent s'emparer de la politique rugbyistique. Hein. Mm-hmm. Bon, donc, il faut créer des états généraux. bon,
carrément.
Voilà, à réunir. Oui, parce que ça part de la formation. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai œuvré longtemps dans le sport à l'école, mais il faut voir que même au niveau du sport à l'école, bon, c'est pas du tout ça. Par rapport aux autres nations, on est en décalage ou on est en retard. Mm-hmm. Bon, parce que la politique sportive n'est pas celle qui est souhaitable pour avoir des équipes de haut niveau.
Et puis il y a eu un effet rugby après la Coupe du Monde 2007 hein, qui avait été organisée en France. Il y a eu une recrudescence du nombre de licenciés dans les clubs. Aujourd'hui, cet effet il est complètement tombé hein, et retombé.
Oui, l'année dernière, on a perdu 16 000 licenciés. Ouais. Bon, donc le rugby, et comme je l'ai dit, la planche est savonneuse. Hein. Nous sommes dans une mauvaise pente. Donc il faut se ressaisir parce que plus tard, ce seront les spectateurs, les téléspectateurs, le suivi qui fera défaut, bon, et puis l'économie, bon, et le rugby sera dépassé par les autres sports.
On préfère gagner des Coupes d'Europe que d'avoir une équipe nationale de qualité.
Oui, il y a aussi cette difficulté par rapport à la qualité de l'équipe de France. Hein. Mmh. Est-ce qu'on privilégie l'équipe de France ou on privilégie les clubs? Bon, là aussi, c'est un autre problème qu'il faut régler en discutant hein, avec un apport étranger, avec une vision autre que celle que nous avons, parce que, bon, est-ce qu'avoir 14 clubs aussi, c'est...
Voilà, parce que on a des calendriers qui sont surchargés, que si on joue même des matchs de championnat, le jour des matchs de l'équipe de France, ce qui est inconcevable, par exemple, au foot, on ne verrait pas une journée de championnat en même temps qu'un match pour l'équipe de France. Est-ce qu'il n'y a pas une refonte du calendrier? Parce qu'il paraît que dans l'hémisphère sud, on joue moins.
Oui. Oui, tout à fait, on joue moins. Mais ce sont encore les effets néfastes du professionnalisme et de la couverture médiatique, parce que il faut faire absolument du fric. Bon, voilà le problème, parce que les joueurs sont surpayés. Mmh. On arrive à des joueurs qui sont maintenant payés grassement. Bon, et donc les clubs sont en difficulté. Il faut savoir que s'il n'y avait pas certains mécènes actuellement, eh bien le rugby serait en faillite. Mmh. Bon, il faut voir que certains clubs, même le Stade Toulousain, hein, qui est un grand club, et qui a le premier budget de France, c'est un club qui est en difficulté économiquement. Oui. Bon.
Heureusement qu'il y a des garçons comme Boudjelal, par exemple, à Toulon.
Oui, Boudjelal, et puis Altrad. Hein. Ouais, bon, ouais. Il y a le phénomène Altrad. Bon, certains mécènes, au Racing Club de France, bon, Marty à Bordeaux, bon, c'est eux qui maintiennent le rugby à flot. Hein.
Les valeurs du rugby, elles demeurent quand même, malgré tout. On connaît ces fameuses valeurs hein, qu'on a toujours donc vantées jadis. Est-ce que malgré le fait qu'il y ait des problèmes à avoir passé le professionnalisme, ces valeurs arrivent quand même à demeurer?
Mais les valeurs du rugby, c'est un mythe, c'est une foutaise. Ouais. Bon, pour ceux qui ont joué, on sait très bien que les plus grands bandits étaient dans le rugby. Bon, et les plus grands ivrognes, et les plus grands... personnes qui traitaient les affaires par-dessous la table. Bon, donc les valeurs du rugby, c'est bien dans les mots, mais les hommes sont les hommes. Hein, et puis,
oui, parce que on voit des frasques maintenant. Hein, on voit des joueurs qui des fois sont pris en délit d'alcoolémie, qui vont se battre dans les boîtes de nuit. Il y a même eu pour certains des accusations de viol. Donc on voit que finalement c'est comme partout pareil maintenant.
Oui, tout à fait. Bon, le rugby fait partie de la société. Hein. Bon, le dopage, la violence. Bon, bon, tous les effets pervers se retrouvent dans le rugby. C'est pas parce que le ballon est ovale que qu'il roule mieux que le ballon rond. Hein. Bon.
Bah alors Christian, le prochain rendez-vous maintenant c'est le tournoi, ça sera début février, hein, ça ouvrira donc pratiquement l'année 2018 pour le rugby. C'est l'Irlande, on peut être optimiste, l'année dernière l'équipe de France a terminé 3e hein, en gagnant ce match le plus long de l'histoire. On s'était dit, oh, il y a un petit mieux, 3e c'était pas arrivé depuis très longtemps, puis finalement c'était qu'un feu de paille.
Mais il faut essayer d'être toujours positif, hein, d'être optimiste. Mais enfin, il y a beaucoup de craintes à avoir parce que les autres nations, bon, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles progressent. Bon, et il faut voir que nous, on n'avance pas. Donc, au bout d'un moment, on risque d'être en retard.
Est-ce qu'il y a une petite question mentale aussi ? Est-ce que finalement, on n'a pas des joueurs qui finissent par douter dans l'inconscient ?
Oui, mais c'est toute une ambiance. Hein. C'est quand ça ne va pas et le moral est atteint et le physique, c'est psychosomatique. Hein. Bon, donc il faut amener des solutions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sans jeter aux orties les gens qui sont en place, il faut rajouter des compétences pour avoir des staffs plus performants et susceptibles de nous faire rejoindre les autres nations. Hein. Quand on voit les Anglais, les Irlandais, les Gallois, bon, ils n'ont pas eu peur d'avoir des entraîneurs étrangers. Bon, il y a un apport. Si Jones, Gatland, bon, ce n'est pas rien. Hein. Donc, il nous manque peut-être un apport étranger et encadrer avec des gens du Sud. Hein.
Enfin, je pense qu'il va y avoir le tournoi, et en fonction des résultats du tournoi, ça risque de bouger un peu à la tête du rugby français au niveau de ses éducateurs.
Oui, mais à force de dire on remettra demain ce qu'on peut faire la veille, bon, on est toujours au même point. Hein. Noves devait changer les choses, révolutionner, amener à une forme de jeu, et puis, bon, on n'avance pas.
Allez, la pub, la musique, Christian, et ensuite on se retrouve, on va parler pour votre deuxième passion, c'est le tennis. Allez, on y va.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 90. www.agendadiagnosticaupluriel.fr. À Rambouillet, 14 rue Chal, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Chal à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Richard répare l'entretien de votre véhicule à domicile. Un pro à votre service. Vidange, frein, amortisseur, courroie de distribution, échappement. Contactez Richard au 06 99 71 22 57 ou par mail rr78ablis@gmail.com. Intervention 7 jours sur 7. Devis gratuit. Pour votre bien-être et celui de votre voiture, pensez Richard répare. Simple et rapide, rr78ablis@gmail.com. Donnez vos coordonnées, Richard vous rappelle et se déplace pour vous. Retrouvez chaque mois le conseil de Richard. Avant l'hiver, vérifiez votre batterie et vos bougies. Profitez de notre promotion sur les batteries. rr78ablis@gmail.com. Le service personnalisé à domicile.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Ça se passe près de chez vous et c'est sur RVE.
I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. He tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home.
Naturellement en podcast que vous pourrez la retrouver. Je voulais quand même préciser aux auditeurs que certaines de nos émissions sont parfois donc enregistrées. C'est ce qui peut expliquer un petit peu le décalage. Hein. C'était le cas la semaine dernière avec Tribune Foot qui avait été enregistré juste avant le match de championnat Strasbourg-Paris Saint-Germain. Donc c'est ce qui explique qu'on n'ait pas évoqué donc la première défaite du PSG en championnat cette saison. Et puis je voudrais remercier tous ceux qui ont été généreux aussi à l'occasion de ce week-end de Téléthon. Hein. Le sport a été naturellement très largement représenté et notamment du côté du Perret en Yvelines où c'était donc dimanche dernier, eh bien la petite rigole, sur des parcours de 18 et 30 km. Alors je vais vous donner très brièvement les vainqueurs. Dans l'épreuve des 18 km, c'est Miloud Oubad qui s'est imposé donc en 38 minutes et 58 secondes. Il s'impose devant Maxence Herpin du Colombier du Stade Français, 39 minutes 8 secondes. Troisième, Émeric Roger, donc en 43 minutes 21 secondes. Et puis dans l'épreuve donc des 30 km, eh bien c'est quelqu'un qu'on connaît, qui était déjà présent à la course des 4 châteaux. C'est Bertrand Jans qui l'a emporté en 2h 12 minutes et 26 secondes devant Guillaume Tirel, donc en 2h 14 minutes et 38 secondes. Et le troisième, c'est Florian Montméa, donc en 2h 16 minutes et 47 secondes. Et puis cette semaine à Paris, il y avait donc à la Maison des Sports, hein, le jour même où Ronaldo recevait son 5e ballon d'or, eh bien la traditionnelle cérémonie des prix nationaux du fair play, les iris du sport, hein, c'est une manifestation qu'on a très longtemps dans le passé accompagné. Alors, ont été très brièvement récompensés donc pour le prix Micheline Ostermeyer, eh bien Benjamin Comporey, le champion d'athlétisme. Dans l'esprit sportif, prix Colette Besson, c'est Anne-Marie Le Fur, donc l'athlète handisport, qui elle aussi a été récompensée. Roger Kemener, celui qui avait fait Paris-Colmar à la marche, eh bien a remporté le prix Marie-Claire Restou. Et puis Armand Perrier, que vous connaissez bien pour sa carrière d'éducateur, carrière sportive, donc a été récompensé à travers le prix Patrice Martin. Et puis on signalera aussi André Catlin, tiens, qu'on connaît bien, qui était arbitre de hockey sur glace, qui a reçu le prix Nelson Payou pour la promotion de l'esprit sportif. Et puis quelque chose qui nous fait chaud au cœur aussi, le prix Jacques Marchand, grand journaliste décédé cette semaine, c'était l'esprit sportif dans les médias. Bah, c'est notre consoeur Céline Giraud qui en a été récompensée. Et enfin le prix final, le prix spécial du jury, prix Éric Tabarly, est revenu au boxeur Jean-Marc Mormec. Et puis ce dimanche, tiens, il y a une épreuve assez intéressante du côté donc de Versailles, c'est la commémoration du 105e anniversaire de la course à vélo Paris-Versailles. Ça avait commencé le 8 décembre 1867. Alors il y a eu une vingtaine de passionnés d'histoire du cycle qui se sont donc donné rendez-vous ce matin, et sur des vélocipèdes, eh bien ils ont accompli ce parcours, ils vont l'accomplir. Ils sont partis donc ce matin à 8h30 du théâtre du Rond-Point à Paris, et ils vont arriver vers midi à Versailles, avenue de Paris, face au château. Donc c'est une épreuve bien sympa. Et d'ailleurs la semaine prochaine, c'est Jean-Michel Richefort, le vice-président de la Fédération française de cyclisme, qui sera parmi nos invités. Alors Christian, maintenant deuxième passion, c'est le tennis. Alors c'est vrai que le rugby, bon, on est un peu sous notre on est un peu sur la réserve, hein, on reste sur notre faim. Le tennis, on a un peu sauvé la face en gagnant la 10e Coupe Davis de notre histoire, mais ça n'a pas été facile, hein, 3-2 contre la Belgique.
Oui, le tennis, c'est le même processus que le rugby. Mais ouais, la à différence près, c'est qu'au tennis, on a gagné.
Oui.
Bon, Noah...
Quand Noah est là, on gagne toujours. Voilà. Chaque fois qu'il est venu, on a gagné au moins une fois la Coupe Davis.
Voilà.
Donc il faut qu'il reste. Hein.
Et oui, il faut qu'il reste. Bon, ouais, c'est comme au rugby, Noah, il faut qu'il reste aussi.
Ouais.
Alors... il faut se poser la question, que serait devenu le tennis si nous avions perdu à nouveau la Coupe Davis. Bon, il faut voir que nous n'avons pas les meilleurs joueurs du monde, et dans les compétitions les plus relevées...
Oui, on est loin, on n'a plus de joueurs dans un tournoi du Grand Chelem sur une deuxième semaine, quand même. C'est quand même assez sidérant.
Voilà, oui, dans tous les grands tournois, eh bien, nous sommes absents. Heureusement qu'il y a... chez les filles, Garcia relève un peu la tête en prenant la tangente, hein, puisqu'il faut voir qu'elle n'est pas entraînée par la fédération. Mmh. Bon, c'est une structure privée qui l'entraîne, et bon, il faut voir que apparemment ça a porté ses fruits. Donc nous ne sommes pas au top et nous avons gagné la Coupe Davis. Alors il faut essayer de réfléchir.
Bon, c'est vrai qu'on a un parcours somme toute facile. On a joué devant des nations comme le Japon, la Grande-Bretagne, un peu démobilisées, et puis à domicile, tous nos matchs.
Oui, tout à fait. Et les autres nations amputaient les meilleurs joueurs.
Voilà, c'est ça.
Bon, quand le Japon joue sans Nishikori, bon, c'est...
La Grande-Bretagne sans Andy Murray.
Oui, ce sont des challengers. Hein.
Ouais.
Bon, Donc, il faut raison garder et ne pas trop s'enflammer devant ces résultats. Parce que la coupe Davis, il faut savoir, est dévaluée.
C'est mythique quand même la Coupe Davis, que si on n'arrive pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce désintérêt des meilleurs joueurs, alors que la Coupe Davis reste mythique quand même.
Oui, mais c'est mythique pour les Français, hein, parce que nous avons un héritage comme en rugby, les mousquetaires qui ont ensoleillé le tennis français. Bon, et puis il y a eu des épiphénomènes, hein, tels que Noah qui a gagné par une chance inouïe Roland-Garros.
Est-ce qu'on gagne Roland-Garros par la chance?
Oui, ou par autre chose.
Oui.
Bon, avec l'apport d'autre chose.
Ouais, ouais.
Bon.
Mais tout, tout le monde le faisait.
Voilà, tout le monde a des accompagnements médicaux maintenant. Mais bon, le rugby, le tennis a aussi besoin d'une révolution, hein, tant dans sa formation. Le dernier DTN, directeur technique national, a essayé de modifier les choses, mais bon, il y a un problème de formation. Nous sommes tributaires de la psychanalyse.
Oui, j'ai l'impression que dans le tennis, c'est plus mental. C'est vrai que on a des champions de qualité, comme on a souvent eu, mais voilà, est-ce que les gars veulent vraiment au plus profond de même s'investir à fond? J'en suis pas toujours persuadé.
Le problème, c'est que nous n'avons pas une formation assez technique à la base. Oui. Bon, avec des répétitions suffisantes et pour avoir cette fameuse
grinta.
Oui, grinta, et puis aussi solidité. Solidité, quand par exemple les joueurs russes et les joueuses russes. Bon, il faut voir que certains joueurs russes des pays de l'Est ou joueuses ont moins de largesse de palette technique, mais ce qu'ils font, ils le font très bien. Voilà, alors que nous, on ne sait pas trop faire ça, hein.
Oui, mais
alors, on fait un peu de touche à tout, mais ce n'est pas, c'est pas solide.
Alors, on a quand même gagné notre 10e Coupe Davis. Hein, on avait perdu les finales ces dernières années, en 2002, 2010, 2014. Il faut remonter à 91, 96 et 2001 pour qu'on ait gagné les précédentes finales. On a quand même le sentiment que les carrières aujourd'hui sont beaucoup plus chaotiques, quoi. Hein, excepté Nadal, qui a gagné son 10e Roland-Garros, et Federer, qui sont dans la durée. Le reste, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est davantage de passage. C'est ça la difficulté?
Oui, bon...
Y compris pour les Français, naturellement.
Oui, oui, oui. Le jeu évolue tellement dans le sens de la vitesse, de la puissance, que ça nivelle aussi les valeurs. Hein. Bon, donc, un joueur qui est dans les centièmes mondiaux peut battre un jour...
On l'a vu sur un Roland-Garros, notamment. Voilà.
Oui, ouais. Peut battre les meilleurs. Donc, le tennis n'échappe pas à l'évolution. On va vers des joueurs de plus en plus forts, mais dans le sens de la force, c'est-à-dire vitesse plus force. Hein. Donc, les coups vont être donnés avec une violence extrême, et où il s'agira de faire le point le plus vite possible. Mmh. Bon, on le voit, les grands serveurs maintenant, et même les joueurs du fond du court, qui délivrent des frappes très rapides, hein, et pour marquer le point, pour faire mal à l'adversaire.
Donc si je comprends bien, Nadal et Federer en ont encore pour quelques saisons, et puis il faudra encore attendre très longtemps pour qu'on ait un Français ou une Française qui gagne à nouveau Roland-Garros.
Mais oui, parce qu'il faudra attendre encore, d'après moi, parce que on ne gagne pas Roland-Garros si on ne parvient pas déjà dans les 5 premiers. Bon, pour espérer gagner Roland-Garros, il faut déjà être dans les meilleurs et avoir des résultats, parce que c'est une épreuve physique très particulière, Roland-Garros. Hein. Les matchs se roulent au meilleur des 3-7, Bon, alors, donc, souvent, ça, on arrive à des matchs marathons en 5-7. Donc, il faut une préparation physique très intense. Donc, il faut des joueurs, de véritables athlètes, susceptibles de garder la balle le plus longtemps possible sur le court et d'être efficace au maximum à chaque frappe de balle.
Alors, on parlait de la baisse des effectifs pour le rugby. Est-ce que cette victoire en Coupe Davis va permettre à des jeunes à nouveau de vouloir rejoindre davantage de clubs de tennis? Ça va susciter fatalement des envies, ça va susciter de l'enthousiasme, même si la baisse en tennis, elle est quand même très relative hein, par rapport au ballon ovale.
Oui, bien sûr, ça ne peut être que positif.
Bon. Hervé Guérin ou Jean-Michel Lespry qu'on a reçu cette année vont être contents si Rofargis n'est plus le Perret.
Voilà, l'image de, du tennis français bon, a été un peu revalorisée. Bon, c'est quand même une victoire bon, pour ce sport qui... avait pris un essor extrême et puis qui avait connu une baisse
Tonga peut être Tonga, mon fils peuvent être des véritables icônes.
Oui, bien sûr, mais bon, Tonga et mon fils c'est déjà du passé. Il faut se projeter dans l'avenir et vite hein. Bon, Pouille, est-ce qu'il pourra prendre la relève? Est-ce que certains joueurs sont prêts à prendre la succession? Bon, rien n'est moins sûr tant qu'il n'y aura pas cette formation très rigoureuse, très poussée et depuis les jeunes joueurs.
Alors, Christian, vous parliez des batailles internes au sein du rugby. Il y en a eu aussi dans le tennis cette année. Ça a amené une nouvelle équipe, hein, Monsieur Guidicelli à sa tête. Finalement, c'est un bon point. Il débute, il gagne une Coupe Davis en tant que président.
Ben oui, il y en a qui ont de la chance. Bon, c'est comme Noah, hein, ouais. Qui est là.
Noah, c'est fréquent, il a déjà gagné d'autres. Hein.
Oui, alors que toutes les planètes s'écartent les unes des autres, hein, parce que sont, si l'on se réfère à un article d'Yves de Ré, qui indique que Yannick Noah était en panne dans les sondages de popularité, qu'il était en difficulté sur le front musical, en délicatesse avec plusieurs membres de l'équipe de France de Coupe Davis. Oui. Bon, parce que il faut savoir qu'il y a l'apparence des choses et la réalité des choses. Mm-hmm. L'ambiance dans l'équipe France tennis n'est pas au beau fixe aussi bien qu'on peut l'imaginer.
Oui, mais est-ce que c'est pas lié dans tous les sports, justement, cette nouvelle génération qui est plus difficile à gérer? Peut-être que aujourd'hui les joueurs de tennis, c'est comme les footballeurs, c'est comme la rugbyman, ils sont peut-être plus difficiles à gérer que la génération d'il y a 15 ou 20 ans.
Oui, mais il faut être prudent. Quand on construit une équipe de double en dissociant cette équipe qui a été championne du monde, bon, on prend des risques parce que mettre Gasquet à la place de Mahut, bon, c'était une aberration. À l'origine. Et je pense que Mahut et Herbert auraient gagné aussi facilement que Gasquet et Herbert. Et en plus, il les a fait changer de place. Hein. Gasquet jouait à droite. Bon.
Bon, le double a été décisif finalement. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans le passé, on a gagné des doubles en Coupe Davis. On pensait avoir plutôt donc l'affaire en main et puis on a perdu nos deux derniers simples. Cette fois-ci, le double a été comme très souvent en Coupe Davis décisif.
Oui, souvent le double est décisif. Et puis il faut voir que la Belgique n'avait que Goffin et d'une boutade, on pourrait dire que la Belgique, c'est un peu sabordé. Hein. Mm-hmm. Si Goffin avait joué le double, bon, c'est pas ce qui serait advenu. Hein.
Mm-hmm. Alors, Christian, pourquoi ce désintérêt de la Coupe Davis? Ça paye plus, ça donne, pour un tennisman, c'est plus facile de faire un tournoi exhibition que d'aller finalement participer à la Coupe Davis? Ça paye plus?
Oui, parce que le tennis est devenu un business. Et puis, bon, les joueurs ne veulent plus sacrifier une semaine pour à la Coupe Davis, pour se soumettre à un capitaine ou à des entraîneurs qui vont essayer de leur faire vivre autre chose que ce qu'ils vivent habituellement.
Oui, mais c'est un peu pareil pour le joueur de foot ou le joueur de rugby quand il va en sélection nationale. Il va être sous les ordres d'un entraîneur qui n'est pas forcément ancien toute l'année.
Oui, mais les grands prix aussi sont plus valorisants que la Coupe Davis. Bon, donc, elle est légèrement dévaluée. Donc, il va falloir que les instances se penchent sur son existence même et aussi raccourcir les matchs parce que ça devient trop long.
Oui. Bon, alors justement, j'allais vous poser comme question, mais ça, c'est un vieux débat. Les calendriers sont beaucoup trop longs parce que, excepté là, le mois de décembre actuellement, où les tennismen et tenniswomen sont en vacances, finalement, il y a très peu de repos sur une saison.
Oui, les années sont hyper chargées, les tournois succèdent aux tournois, et il y a une overdose complète, et lorsqu'on rajoute la Coupe Davis, bon, ça devient ingérable. Donc les meilleurs joueurs ne participent pas.
Oui, c'est ce qui explique aussi peut-être les parcours un peu plus chaotiques que par le passé, sauf pour Federer et Nadal chez les hommes, mais eux, ce sont des exceptions, des joueurs qui sortent du commun.
Mais oui, bon, certains joueurs sont capables de supporter ces cadences. Sans parler de l'accompagnement médical. On peut quand même se poser des questions. Pourquoi certains joueurs n'arrivent pas à émerger alors que d'autres restent au plus haut niveau, même à 35 ans.
C'est le mental qui fait la différence, simplement. Le tennis peut-être encore plus qu'ailleurs.
Oui, le mental contribue, mais il y a d'autres paramètres.
Très bien, allez, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale pour finir cette émission, bien remplie ce matin, consacrée au ballon ovale et à la petite balle jaune.
Bienvenue à la Galerie du Petit Paris de Ruchal, située en plein centre-ville de Rambouillet, en face de la librairie Labyrinthe. Venez y découvrir un cadre agréable et convivial, sa brasserie, son salon de thé pour des moments entre amis ou pour manger. La Galerie du Petit Paris vous propose une cuisine traditionnelle avec des produits maison. Une formule à 14,50€ le midi, un menu à 20€ avec boisson, avec huîtres, moules, tous les jours, le midi. La Galerie du Petit Paris de Ruchal, en centre-ville à Rambouillet, ouverte tous les jours de 9h à 22h et de 9h à minuit le week-end.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Finis les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
La Cime Verte et La Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage, 71 bis, rue de la Grange-Colombe à Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Dans la maison.
Simplement après la Coupe Davis qu'on regagne la Fed Cup, ce serait bien aussi chez les femmes.
Ah oui, ça serait une bonne idée de gagner la Fed Cup, mais nous avons les joueuses. Bon, Mladenovic a un blues passager, mais je pense qu'elle a le potentiel pour aider positivement Caroline Garcia.
Alors, pour finir sur cette émission, vos bouquins que vous écrivez depuis 14 ans, hein, vous êtes souvent venu en parler à ce micro, vont être réédités aux éditions Amphora.
Sont réédités, oui. Ils sont actuellement en catalogue, aux éditions Amphora, mm-hmm. Et en particulier les fondamentaux du tennis, qui apparemment sont très demandés.
Allez-y, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc c'est une occasion de faire un cadeau et d'aller lire vos livres. Dernier petit mot, Christian, je sais vous avez une troisième passion, c'est le golf. 2018, il va y avoir la Ryder Cup, ça va être un événement fabuleux.
Mais oui, ça va être aussi quelque chose de très intense à vivre. Mm-hmm. Bon, le golf français est en pleine évolution. Mmh. Et sur le bon chemin, apparemment. Bon, j'espère que nous aurons un joueur aussi susceptible d'arracher de haute lutte les lauriers golfiques.
Très bien. Merci Christian. Bonne fin d'année. Merci d'être venu nous parler rugby, tennis et un peu de golf ce matin. Voilà, c'était un véritable plaisir. Merci encore à tous ceux qui ont été généreux et solidaires à l'occasion de ce week-end de Téléthon. Et je l'ai dit, pour la guerre de l'année 2017, la semaine prochaine, c'est Jean-Michel Richefort que nous recevons de la Fédération Française de Cyclisme. Hein, effectivement. Et puis, ouais. Voilà. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis, on aura une grosse rétro sport à la rentrée. Donc en 2018, le 7 janvier. Bon dimanche à tous et à tous et rendez-vous donc la semaine prochaine. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carny.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous.